Et alors, évidemment, ceux qui sont dans le ciel, alors, étant plongés dans la lumière de Dieu, alors ils voient en Dieu, eh bien, tout le déroulement de notre vie. Et ça, ils connaissent évidemment l'heure où nous autres, nous partons d'ici. Parce qu'ils nous attendent avec une belle impatience. Hein? Quand est-ce que tu vas venir? Ah oui. Ils nous suivent pendant toute notre vie et ils prient pour nous. Ils nous portent dans leurs prières. Donc, il n'est pas question d'une séparation quelconque. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer le ciel comme, je ne sais pas, moi, perdu quelque part au milieu des étoiles. Hein. Le ciel est ici. Il n'est pas ailleurs. Mais il est autrement. Alors, il faudrait changer l'adverbe, là. Le mot « ailleurs », il faut le remplacer par « autrement ». Ils sont ici, mais autrement. C'est-à-dire, ils sont ici dans la vision infinie de Dieu. Parce que le ciel n'est pas coupé de la terre, puisque le règne de Dieu doit se construire à partir de la terre. Et donc, ils sont là pour s'occuper de nous. Alors, si je mange une pomme ou une poire, c'est pas ça qui les intéresse, vous comprenez bien, hein? Mais ce qui les intéresse, eh bien, c'est le progrès que je peux faire dans la vie de Dieu. Et ils prient pour que je fasse ce progrès-là. Donc, ils nous accompagnent continuellement. Ils ne nous quittent pas, je dirais, une seconde de leurs yeux parce qu'ils nous voient. C'est pas parce qu'ils n'ont plus de corps qu'ils ne nous voient pas. Ils nous voient, ceux qui sont dans le ciel, eh bien, peuvent nous voir. Leur âme, eh bien, nous voit clairement. Ce n'est pas aussi clair pour les âmes du purgatoire. Mais le Seigneur, de temps en temps, peut aussi leur permettre cela. Voyez. Donc, il y a une interaction, si vous voulez, ce qu'on appelle une intercommunion profonde entre ceux qui sont dans le ciel, c'est-à-dire dans la gloire infinie de Dieu, et ceux qui sont encore en voie de purification dans le purgatoire et ceux qui sont ici sur la terre. Alors, bien sûr, nous autres, comme nous sommes toujours polarisés par 51 000 bricoles, hein, alors c'est difficile de réaliser cette communion profonde. Il n'y a que dans les moments de prière, vraiment, où nous pouvons entrer, je dirais, dans cette connaissance profonde. Mais l'activité de notre vie nous disperse tellement que nous n'avons pas toujours le temps, les moyens d'y songer. Hein. Tandis que de l'autre côté, il n'y a plus de distraction, c'est fini. Hein. Aucune distraction possible. Alors, ils sont vraiment plongés dans la connaissance infinie de Dieu. Nous recevons la sainteté à travers le baptême. Marie elle-même n'a pas été baptisée parce qu'elle n'avait pas besoin d'être baptisée. Elle a été rachetée de façon anticipée par le Christ. Et nous sommes encore tentés. Et nous pouvons céder à la tentation et à la fragilité humaine. Marie elle-même a été tentée, mais en vertu d'un privilège divin, elle n'a jamais pu pécher. Bien sûr qu'elle a été tentée. Vous pensez que le démon l'aurait laissé tranquille? Alors qu'il n'a pas laissé Jésus-Christ tranquille. Hein? Marie devait aussi vivre le combat de Jésus-Christ contre les forces des ténèbres. Satan devait attaquer Marie drôlement. Et il l'attaquait, puisqu'il ne pouvait pas l'attaquer par n'importe quelle tentation, mais au niveau de la foi. Déjà, dans l'exemple que je vous citais, quand Joseph a dû partir en exil, mais le démon devait dire, « Alors, ton fils, il n'est pas capable de faire quelque chose pour toi. » C'est évident que le démon était là pour suggérer des histoires de ce genre. Et Marie elle-même, imperturbablement, s'abandonnant au plan du Père, et c'était à chaque instant une défaite cuisante pour Satan. Mais Marie vivait le combat de Jésus-Christ contre les forces des ténèbres. Et surtout le Vendredi Saint, alors. Ah, le Vendredi Saint, oui. Au pied de la croix. Quand, parce que c'est le démon qui a quand même fait parler les grands prêtres, qu'il leur a inspiré ce qu'il fallait dire, c'est sûr, c'est le démon qui parlait par eux. Descends de la croix et puis nous croirons en toi. Hein? Alors le démon devait être là par derrière pour dire, écoute, t'as vu tous les miracles qu'il a fait, puis maintenant il n'est pas capable de se libérer. Hein? Qu'est-ce qu'il en est de ton fils, etc. Le démon devait se moquer de Marie d'une façon fantastique. Et la Très-Sainte Vierge elle-même, acceptant le mystère de son fils, et le vivant totalement tourné vers lui, eh bien, elle était encore celle qui donnait un coup de pied formidable, magistral, à Satan, voyez.